Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Le cours que nous écoutons cette semaine s'intitule « Les questions romaines de Plutarque, une promenade imaginaire dans la Rome antique ». Nous sommes guidés dans ce texte par le professeur John Shedd, titulaire de la chaire Religion, Institutions et Société de la Rome antique au Collège de France. Ce livre de Plutarque est resté une énigme pour tous ses lecteurs, même les plus érudits. En effet, si certaines des questions que Plutarque se pose dans ce texte se regroupent dans une thématique visible, on ne comprenait pas jusqu'alors ce qui pouvait donner la cohérence à l'ensemble. Les savants pensaient par exemple que ces questions romaines étaient en fait des notes, des fiches, en vue de l'écriture d'un livre. Mais John Shedd a réfuté cette thèse dans les cours que nous avons entendus en démontrant à quel point l'enchaînement des questions paraissait travaillé. L'objet même du livre restait donc un mystère. Il s'agissait donc de retrouver le fil conducteur implicite qui reliait entre eux les différents groupes de questions. La thèse de John Shedd vient éclairer parfaitement ces questions romaines de Plutarque. Pour lui, la structure du livre est topographique. Cet éclairage permet non seulement de donner une véritable unité au livre de Plutarque, mais aussi de visiter la Rome du 1er siècle, si je puis dire, en sa compagnie. Car la cohérence des questions qu'il se et nous pose vient du regard et de la place qu'il occupe en visitant la ville. Ainsi, à tel ou tel endroit, il voit en se tournant un temple, le forum, etc. Et Plutarque se pose et nous pose, à ce lieu et de ce lieu, des questions aussi savantes que palpitantes. Ainsi, les questions sont-elles induites par les lieux qui se trouvent devant lui. Le livre serait donc une sorte de guide savant dans la religion, les institutions et les coutumes romaines. Pouvions-nous, pour visiter, comprendre et poser les bonnes questions sur la Rome antique, trouver un meilleur guide que le génial, passionnant et merveilleux Plutarque?
Pourquoi, vers la pleine lune du mois de mars, précipite-t-on du pont de bois dans le Tibre des images d'hommes appelés Argés? Est-ce que les barbares qui habitaient jadis ce site tuaient ainsi les Grecs capturés? Héraclès, qu'ils admiraient beaucoup, mit fin à ces meurtres d'étrangers et leur enseigna à imiter cette coutume superstitieuse en précipitant des figures dans le Tibre. Les anciens appelaient tous les Grecs Argéens. À moins que par Zeus, puisque les Arcadiens considéraient les Argéens comme des ennemis, en raison du voisinage, ces deux peuples étaient voisins, et que les compagnons d'Évandre l'Arcadien avaient fui la Grèce et habitaient cet endroit, ils aient conservé leur rancœur et leur haine à l'égard de ces Argéens, et c'est pour ça qu'ils les auraient tués. Les Argés étaient des poupées de jonc qui étaient suspendues au début mars, c'est-à-dire au nouvel an des Romains, dans 27 chapelles dispersées dans les quartiers de Rome. Le 14 mai, ces mannequins étaient recueillis en procession et, après un sacrifice, précipités du pont Sublicius dans le Tibre. On imagine que les explications de ce rite étrange étaient nombreuses, car le Forum Boarium est lié dans les traditions romaines au sacrifice humain, et notamment à l'humanisation, à la civilisation des premiers Romains descendants des Vandres, par Hercule, comme Plutarque le rappelle dans cette question. En tout cas, pour notre propos, la 32e question prouve que le lecteur est censé se trouver au bord du Forum Boarium, mettons. Après avoir regardé vers l'est et vers le Grand Cirque, il se tourne vers l'ouest, vers le Tibre et le pont Sublicius. Ce qui confirme que le lecteur se trouve bien à l'endroit où nous l'avons mené. Plutarque fait ensuite deux digressions à partir de l'une des interprétations du rite des Argés, que lui-même et ses lecteurs connaissent bien entendu, mais qu'il n'évoque pas implicitement, comme d'habitude. La première de ces digressions concerne les relations entre pères et fils, entre anciens et jeunes. 33e question. Pourquoi les Romains de jadis ne mangeaient-ils jamais à l'extérieur sans emmener leurs fils, même quand ceux-ci étaient encore des enfants? Est-ce Lycurgue de Sparte qui a également fondé cette coutume en ouvrant les repas communs aux enfants, afin qu'ils s'habituent à se porter vers les plaisirs avec retenue, et non dans un sauvage désordre ayant leurs anciens comme surveillants et spectateurs? Non moins important était le fait que les pères eux-mêmes étaient plus réservés et discrets en présence de leurs fils, car là où d'après la formule de Platon, les anciens sont sans pudeur, les jeunes le sont encore davantage. Je considère donc cette question comme une digression. On pourrait évidemment la mettre en rapport avec le sacrifice à Hercule et avec les banquets célèbres qui se célébraient près de son autel. C'était des banquets célèbres puisque toute la viande sacrificielle qui était offerte devait être mangée, enfin devait disparaître avant le coucher du soleil. Mais c'est possible que cette association à ce lieu, à ce sacrifice, induise cette question, mais il existe sans doute à nouveau une solution plus simple. L'une des explications que l'on donnait du rite des Argets, et que Plutarque ainsi que les autres Romains connaissaient mais qu'ils ne mentionnent pas ici, mettait les Argets en relation avec un proverbe romain. Ce proverbe disait « sexagenarii de ponte », les sexagénaires du pont. Il s'agissait en fait d'un slogan politique qui voulait empêcher les anciens de contrôler le vote, les jeunes, en se serrant sur les ponts par lesquels passaient les électeurs au moment où ils donnaient oralement leur vote. Et donc, il y avait des auditeurs, des gens qui écoutaient quel était le vote des jeunes. Une loi restreignit la largeur de ces ponts afin de garantir le secret du vote. Donc, les sexagénaires des ponts, du pont. Dans l'interprétation à laquelle se réfère Plutarque, et qui est bien connu, les sexagénaires auraient au contraire été précipités dans le fleuve lors d'une famine, afin de réduire ainsi le nombre des bouches affamées. Se trouvaient donc en cause les anciens et les repas. Au lieu de ne pas manger ensemble dans la question 32, les anciens et les jeunes participent au même banquet dans la question 33. Donc les sexagénaires exclus mange avec les jeunes dans la question 33, si vous voulez. Je pense que Plutarque brode sur ce thème, dans ces deux questions, et introduit ce problème qui lui permettait, en outre, de faire un rapprochement entre les coutumes romaines et celles de Sparte, celles de Lycurgue. Dans ce passage, comme dans d'autres, je le souligne encore, Plutarque n'hésite pas de donner une origine grecque à une coutume romaine. Nous avons déjà parlé de la question suivante, en faisant voir qu'elle a peut-être pour seule fonction d'opérer la transition vers la question 35. Je la lis rapidement. Pour quelle raison, alors que c'est en février que les autres Romains faisaient des libations et des sacrifices aux défunts, Decimus le Brutus le faisait-il en décembre, à ce qu'écrit Cicéron? Il s'agit du Brutus qui envahit la Lusitanie et fut le premier à faire franchir le fleuve l'été à une armée. Je passe un passage et continue. Ou encore, puisqu'on célèbre alors une très grande fête, celle des Chronies, hein, les Saturnales de décembre, et que celle-ci passe pour compter le plus de banquets communs et de réjouissances, a-t-il paru correct d'en attribuer en quelque sorte les prémices aux défunts? Ou enfin, n'est-il pas entièrement faux que seul Brutus faisait des offrandes en ce mois, car en décembre, on offre également un sacrifice funéraire à Larentia et on verse des libations sur son tombeau? Le lien avec les deux questions précédentes peut encore être thématique. On n'est pas obligé toujours de regarder vers ce fil conducteur topographique. Car dans ce cas, Plutarque a pu exploiter à la fois le thème du sacrifice et le thème de la mort. Mais plus vraisemblablement, le lien est topographique ici. Le lecteur est en fait censé se tourner légèrement vers l'est, vers le Vélabre, pour examiner dans les questions 34 et 35 la fin de l'année et le dernier service religieux de celle-ci, la parentatio, le service funéraire en l'honneur d'Acalarentia, que nous avons commenté en détail. Et je saute cette 35e question. Vous voyez actuellement le Palatin et cet arc qui remonte à Constantin qui barre la vue, mais il faut imaginer quelque part dans ce secteur la tombe dite d'Acca Larentia. Du Vélabre, le regard passe ensuite vers le nord à Fortune et à une porte appelée la Porta Fenestella. Je lis 36. Pourquoi appelle-t-on une des portes fenêtre, car fenestra a ce sens, et pourquoi y a-t-il à côté de cette porte la prétendue chambre de Tuquet, de Fortune? Est-ce parce que le roi Servius, qui était extrêmement chanceux, était réputé de coucher avec la Tuquet, qui venait régulièrement le rejoindre en passant par cette fenêtre? Ou bien est-ce là une fable? Et est-ce que ce lieu porte ce nom parce qu'à la mort de Tarquin l'Ancien, son épouse Tanaquil, une femme sage et royale, sollicita les citoyens en se penchant par une fenêtre et les persuadait de désigner Servius comme roi? Deux passerelles existent encore entre cette question et les précédentes. D'abord, un lien thématique qui existe, clairement, puisque, avec la question 35 d'Acca Larentia, puisque le roi Servius venait coucher avec Fortune, qui se comportait en quelque sorte comme Acca Larentia dans la question précédente. Seulement, c'est l'inverse de ce qui se produit ici, puisque dans la question 36, c'est une déesse qui couche avec un humain, alors que dans la question précédente, c'était une mortelle qui couchait avec le dieu Hercule. La situation de la porte appelée Porta Fenestella, Porta Fenestra chez Plutarque, n'est pas connue. Filippo Coarelli, le spécialiste de la topographie romaine, propose de la situer à côté du temple de Fortune au Forum Boarium, peut-être. Malgré cette incertitude, on peut de toute façon rattacher ce récit sans hésitation au temple de Fortune, situé à côté de celui de Mater Matuta, que nous avons déjà longuement regardé. Dans son commentaire de l'anniversaire du 11 juin, dans les Fastes, Ovide, le poète Ovide, commente lui aussi les différents mythes concernant le roi Servius Tullius. Et il mentionne notamment ces fameuses visites nocturnes de Fortune par une fenêtre. Et quand il raconte tout cela, il cite toujours le temple du Forum Boarium, dont le 11 juin était l'anniversaire, et dans lequel se trouvait d'ailleurs une statue voilée qui était censée représenter le roi Servius Tullius. Donc vous voyez que la connexion, même si nous ne savons pas où est cette Porta Fenestella, est suffisante pour nous. Autrement dit, le lecteur s'est retourné, en tournant désormais le dos à l'hôtel d'Hercule, il regarde vers le nord et vers la Porta Carmentalis ou Scelerata que nous avons vu la dernière fois, et le temple voisin de Fortune, autour duquel sont construites ces traditions. Les questions suivantes nous révèlent à nouveau le raffinement de la construction de l'ouvrage et le bien fondé de notre hypothèse. Question 37. Pourquoi, parmi les offrandes faites aux dieux, seules les dépouilles prises sur l'ennemi étaient traditionnellement laissées avec indifférence à la destruction par le temps, sans être ni vénérées ni réparées? Les fameux trophées. 38e question. Pourquoi Quintus Metellus, qui passait en général pour un sage et un excellent homme d'État, quand il devint grand pontife, défendit-il de prendre les auspices après le mois Sextilis, appelé de nos jours août, Augustus? 39e question, pourquoi était-il défendu à ceux qui n'étaient pas enrôlés comme soldats, mais se trouvaient simplement dans un camp, de frapper et de blesser un ennemi? Avant d'aller plus loin, il convient de signaler les liens thématiques évidents entre toutes ces questions. Le thème général des questions 37 à 39 concerne les interdits portant sur la fin de l'année et sur le déclin, et pourraient provenir d'une source commune, que Plutarque citerait ici, ou qu'il utiliserait. Dans un premier temps, à partir de la question 34, nous apprenons que les fins sont adaptées pour les sacrifices aux morts. Fin du mois, fin de l'année, etc. À la question 38, enfin, les débuts sont bons pour agir, les fins non. Toujours cette bipolarité chère à Plutarque. Mais il est certain, une fois de plus, que derrière l'ouvrage, la progression de l'ouvrage, se trouve la déambulation. Au point où il se trouvait à la question 36, les lecteurs étaient voisins du parcours du triomphe, de la Via Triumphalis. Le triomphe partait du Champ de Mars, des alentours de la Villa Publica, où résidaient les généraux victorieux, avant qu'ils ne pénètrent dans Rome. Par le Cirque Flaminius, le cortège gagnait le secteur du Temple de Fortune et de Mater Matuta, remontait par le Vicus Jugarius en direction du Forum, il y a des incertitudes ici, mais en gros le parcours est celui-là, et rejoignait, on ne sait trop comment, le Forum Boarium, où il s'engageait dans le Grand Cirque, qu'il quittait pour tourner vers le nord, en direction du Colisée et de l'Arc de Constantin. Là, il se tournait vers l'ouest pour passer par la voie sacrée au Capitole, en traversant le Forum. Autrement dit, les temples des deux déesses matronales, Fortuna et Mater Matuta, étaient étroitement liés à cette voie, d'abord, et surtout au passage du cortège triomphal, donc à la guerre et à la victoire. On comprend donc pourquoi Plutarque évoque successivement les dépouilles prises sur l'ennemi, les interdits concernant les auspices qui sont liés au commandement supérieur de l'armée, enfin les règles militaires qui interdisaient à quiconque de combattre s'il n'avait prêté le serment militaire. Après en avoir provisoirement fini avec le secteur du Forum Boarium et de Mater Matuta ou Fortune, le lecteur est conduit par le Vicus Jugarius vers l'est. Chemin faisant, sont développés des problèmes concernant les victoires, l'armée et son commandement, comme je viens de le dire, qui sont à leur place au parcours du triomphe. C'est là que le triomphe, le cortège du triomphe, entre dans Rome, proprement parlé. La question 40 et les questions suivantes confirment cette impression topographique. La question 40 traite du prêtre appelé Flamine de Jupiter. Pourquoi n'est-il pas permis au prêtre de Jupiter de se frotter d'huile à ciel ouvert? 4 réponses sont données. D'abord, que les enfants ne se déshabillent pas devant leur père. Cette interprétation se fonde, entre autres, sur l'étymologie du nom de Jupiter, Dius Pater, en quelque sorte, le Père Céleste. Puis, l'air et le ciel sont remplis de Dieu, donc ils sont comme un temple. Troisièmement, et on ne se déshabille pas dans un temple, troisièmement, le prêtre de Zeus doit montrer aux autres ce qu'ils doivent faire et ne pas faire. En l'occurrence, il doit montrer qu'il ne faut pas s'adonner à la pratique amollissante des exercices de gymnase. Je reviendrai à l'enchaînement et à la topographie dans un instant. Auparavant, je voudrais commenter cette question de façon un peu plus détaillée, car elle est un modèle d'analyse plutarchéenne. Plutarque décompose la question en 3 éléments. Le prêtre de Zeus, notez la manière de traduire Flamen Dialis, Flamine de Jupiter, le fait de se frotter d'huile, et cela à ciel ouvert. En outre, se frotter d'huile implique que l'on se dénude. Ça fait donc 4 éléments qui servent dans son commentaire. Ces éléments sont envisagés de 2 manières, suivant le mode actif ou passif, et selon que cette activité concerne le prêtre lui-même ou les autres citoyens. En outre, le commentaire tient compte ou non de l'action de se frotter d'huile. Première approche, se dénuder sous le ciel ouvert. Relisons le texte. Est-ce parce qu'on ne considère pas comme respectueux et décent que les enfants se déshabillent sous les yeux de leur père, aussi bien que le gendre devant son beau-père, et que jadis ils ne se baignaient pas ensemble? Or Zeus est le père, et c'est à ciel ouvert qu'on pense être en quelque sorte le plus placé sous son regard. Le raisonnement qui oublie la fonction de celui qui se frotte et qui envisage le mode actif, on se frotte, est le suivant. Si on se frotte, on est nu. Être nu est donc une activité. Cette activité est faite sous le ciel, or le ciel est Zeus, et Zeus est notre père, Deus Pater. Et on ne doit pas se mettre à nu devant son père, d'après la tradition romaine. Deuxième interprétation, se dénouer sous le ciel, bis en quelque sorte. Ou bien, tout comme il est licite de se déshabiller dans un sanctuaire ou un temple, de même il respectait scrupuleusement l'air qui recouvre la voûte céleste, puisqu'il est rempli de dieux et de démons. C'est pour cela aussi que nous faisons beaucoup de nos besoins sous un toit, caché et dissimulé par les maisons au divin. Le raisonnement est le même, mais le ciel est interprété plus largement comme la résidence de tous les dieux et assimilé à un temple. Faire cela est interdit par le respect qu'on doit non pas seulement à Zeus, mais à tous les dieux. Troisième approche. Cette fois-ci, on regarde les destinataires de l'interdit. Le flamine, les autres. Ou bien est-ce que certaines règles sont imposées à ce seul prêtre, d'autres à tous, par la loi et par l'intermédiaire de ce prêtre? C'est pourquoi, chez nous, l'archonte a comme obligation spécifique de porter une couronne, d'avoir une chevelure longue, de ne pas avoir du fer sur lui, ni de franchir les frontières de la phocide. Au contraire, l'interdiction de goûter des fruits avant l'équinoxe d'automne et de tailler la vigne avant l'équinoxe de printemps sont signifiées à toute la communauté par l'archonte, car tel est le temps opportun pour chacun de ces actes. De la même manière, apparemment, il est spécialement interdit à ce prêtre chez les Romains, Flamine de Jupiter, de se servir d'un cheval, de quitter la ville pendant plus de 3 nuits et d'enlever son bonnet, d'où il tire son nom de Flamine. Quatrième approche, se frotter d'huile à ciel ouvert. Beaucoup d'autres prescriptions sont signifiées à tous par ce prêtre, dont l'interdiction de se frotter d'huile à ciel ouvert. En effet, les Romains gardaient d'un très mauvais œil le fait de se frotter d'huile à sec, et ils ne pensent que rien ne fût autant responsable de l'asservissement et de la mollesse des Grecs que les gymnases et les palestres, qui ont fait naître dans les cités grecques un grand désœuvrement et une oisiveté, une perte de temps considérable, la pédérastie et la corruption des corps des jeunes par le sommeil, la marche, les mouvements harmonieux, les régimes stricts. Par ces habitudes, ils auraient sans s'en apercevoir oublié les armes et préféré être appelés gymnastes agiles et beaux lutteurs plutôt que bons soldats et cavaliers. C'est certes difficile d'éviter tout cela quand les hommes se déshabillent à ciel ouvert. Mais ceux qui se frottent d'huile et soignent leur corps dans leur maison ne commettent pas de faute. Certaines règles sont donc destinées au seul prêtre, d'autres à tous les citoyens. Le prêtre les montre à tous par son action. Et ce qui est en cause, c'est la lutte contre la mollesse. Ce rite énonce donc un des principes éthiques importants. Donc, vous le constatez, un ensemble bien construit de 4 réponses qui envisage ce que le prêtre fait, où il le fait, ce qu'il fait, pour lui-même ou à l'adresse des autres. Le rite est envisagé comme un fait ne concernant que le prêtre, ou bien comme un énoncé normatif concernant tous et produit par les rites du prêtre. Très intéressant est une fois de plus le comparatisme que Plutarque met en œuvre dans cette question. Je ne veux pas parler du fait qu'il explique les données par la démonologie platonicienne, le ciel est plein de démons, etc., qui est une banalité à cette époque à Rome, car cette référence appartenait à la culture de tout Romain éduqué, tout comme l'utilisation du nom de Zeus Pater ou Jupiter, pour Jupiter. Ce qui m'intéresse, ce sont plutôt les coutumes sur lesquelles s'appuient les autres arguments. D'un côté, Plutarque se réfère aux coutumes romaines. Les fils ne se baignent pas sous les yeux de leur père. Rien d'étonnant dans cela, il explique le rite romain par une coutume romaine. Dans un deuxième temps, toutefois, et c'est l'argumentation qui est la plus développée, Plutarque justifie le comportement du flamine par celui de l'archonte de chez nous, comme il écrit, c'est-à-dire sans doute de Béotie, de Chéronée, sa ville natale où il résidait. Presque comme les comparatistes actuels, Plutarque compare un ensemble complexe de règles pesant en Grèce sur l'archonte de sa cité, à Rome sur le flamen de Jupiter. Ces règles ne sont pas identiques, mais elles sont homologues, semblables, proches, et elles sont en partie sous-entendues. Il doit les expliciter. Ces règles établissent la similitude et permettent donc de formuler une interprétation du rite romain qui fait l'objet de la discussion. Un, si vous voulez, sa première interprétation consiste à dire que l'archonte et le flamine sont passivement soumis à des règles. Porter une couronne pour l'archonte, avoir les cheveux longs, ne pas avoir de fer sur lui, ne pas franchir les frontières. Donc porter une couronne, ne pas enlever le bonnet pour le flamine de Jupiter, avoir les cheveux longs, et on sait que le flamine de Jupiter ne devait pas se faire couper les cheveux par un homme libre. Vous voyez l'interprétation. L'archonte ne devait pas avoir du fer sur lui, le flamine de Jupiter ne devait pas se raser et se faire couper les cheveux avec des ciseaux de fer, mais uniquement avec du bronze, ne pas franchir de frontières, le flamine ne devait pas s'absenter de Rome pendant plus de 3 nuits, et il n'avait pas le droit de se servir d'un cheval. Deuxième comparaison, cette fois-ci, l'archonte et le flamine énoncent activement des règles pour les autres citoyens. L'archonte a l'interdiction de goûter aux fruits avant l'équinoxe d'automne, le flamine de Jupiter cueille et offre la première grappe de la vendange, donc au début de l'automne. Tous les Romains savaient cela, même si Plutarque ne le dit pas. Enfin, il y a aussi l'interdiction de tailler la vigne avant l'équinoxe de printemps pour l'archonte, et là on n'a rien du côté de notre flamine. Donc, le flamine énonce une règle collective par ce rite, par cet ensemble de rites. Et ce qu'il énonce est surprenant, car Plutarque construit cette démonstration élaborée pour aboutir à la conclusion que le flamine de Jupiter invite, en somme, les Romains à ne pas se laisser aller à la mollesse publique des Grecs. Plutarque ne se prononce pas, il affirme simplement cela, mais peut-être jugeait-il aussi que ceux qui passaient la journée dans les gymnases et dans les palestres publics feraient mieux de pratiquer d'autres exercices du corps. De toute façon, pour rester dans le ton de la question, tout ça ne doit pas être fait sous le ciel ouvert, c'est-à-dire en public, mais peut parfaitement être accompli dans la maison, sous couvert. J'ai voulu décortiquer cette question un peu plus longuement pour vous montrer et vous illustrer la richesse et la complexité, le raffinement de ce texte, des questions romaines de Plutarque. L'auteur ne met pas au hasard quelques explications derrière la question posée. Son énumération de réponses est soigneusement construite en fonction d'un raisonnement élaboré. Et ce qui est passionnant, c'est ce permanent mélange de coutumes et d'arguments grecs et romains. Mais revenons à notre sujet. Quel est le lien qui existe entre cette question et les précédentes? D'abord, la question 40 traite de règles concernant un prêtre, qui prennent en quelque sorte la suite des règles concernant la guerre, dont traitent les questions précédentes. Le cadre du questionnement peut donc avoir été donné déjà par les questions précédentes. Mais il existe aussi une passerelle topographique. J'ai dit tout à l'heure que le lecteur est censé se déambuler sur le Vicus Jugarius, ou vers le Vicus Jugarius en empruntant au moins pour un temps la vieille voie des triomphes, en discutant de choses militaires. Or, en faisant cela, il passe au pied du Capitole, et une question concernant le dieu capitolin et son prêtre est tout à fait logique. Déjà plus haut, la question 15 sur les Terminalia et le dieu borne Terminus s'insère entre des questions qui concernent Saturne et Honos, c'est-à-dire le Capitole, le pied du Capitole, et celle qui nomme Leucothea, c'est-à-dire Mater Matuta. C'est donc le même trajet en sens inverse que le lecteur fait. La suite prouve, une fois de plus, que je ne suis pas sujet à des hallucinations. La question 41 concerne Janus. Pourquoi l'ancien monnayage portait-il d'un côté l'image à double face de Janus, de l'autre celle d'une poupe ou d'une proue de navire? Est-ce, conformément à ce que disent la plupart, pour rendre hommage à Cronos, Saturne, qui passa en Italie sur un bateau? Ou bien, comme on peut dire cela de beaucoup d'autres, Janus et Vendre et Aîné sont également arrivés par mer, on ferait plutôt la conjecture que c'est parce que certaines choses sont bonnes pour les cités, d'autres nécessaires. Et parmi les bonnes choses, La plus éminente est la bonne législation et parmi les choses nécessaires, l'abondance, etc. Il se servait aussi d'un autre monnayage ayant comme marque un bœuf, un bélier et un verra, puisqu'ils étaient particulièrement riches en animaux domestiques et en possédaient à l'excès, etc. À nouveau, pour rester dans notre sujet, de quel Janus s'agit-il? De celui que nous venons de quitter au forum des légumes, au forum olitorium? Mais ça impliquerait que le lecteur est encore devant la porte à Carmentalis, sur la voie triomphale, près du temple de Fortune et de Mater Matuta, qui lève certes les yeux vers le Capitole, à la question 40, et donne un coup d'œil par la porte vers le temple de Janus, avant de se rendre sur le forum romain, où nous le trouverons tout de suite. Les questions suivantes, vous le verrez, concernent le forum. Je pense que tout ça est un peu compliqué. On a plutôt l'impression, si on veut une promenade naturelle, en sorte calme, simple, que la promenade a repris et avance, comme je vous l'ai montré, sur le vicus du joug, de bœuf, et approche du forum. Il est donc possible que le lecteur aperçoive déjà le Janus du forum romain quand il arrive vers le haut de cette petite pente. Mais on peut aussi se demander, et il faut toujours lire les questions de très près, si Janus est vraiment l'élément important dans cette question. On notera en effet que si Janus figure dans l'énonciation de la question principale, pourquoi est-ce que, je vous le rappelle, l'ancien monnayage portait-il l'image à double face de Janus, etc. Donc même s'il figure dans l'énonciation de la question principale, Cronos, Saturne, apparaît tout de suite dans la première question-réponse. En passant, je signale que le nom de Saturne est traduit en grec, Chronos, mais pas celui de Janus. Sans doute, Plutarque, ou plus généralement ceux qui parlaient grec de fait romain, jugeaient-ils que Janus était trop loin du dieu Hermès pour permettre cette transposition. Plutarque, ou sa source, commente dans cette interprétation une monnaie. D'un côté, il voit l'image d'un Janus, de l'autre, une proue de bateau. De cette monnaie, deux interprétations sont données, suivant que Janus est actif ou passif. La première interprétation s'inspire de la tradition, également donnée par Ovide, par exemple, qui place la fuite de Cronos, de Saturne, et son arrivée en Italie sous le règne de Janus. C'est ce qu'on verrait sur le droit de la monnaie, ou par bateau, c'est ce qu'on verrait sur le revers, avec le fameux bateau. Et le bateau commémorerait sur ces monnaies le débarquement de Saturne en Italie. La deuxième lecture confère un rôle actif à Janus. Le droit avec sa double tête énoncerait cette fois-ci un changement, le changement opéré par le législateur, donc il se retourne en quelque sorte, on peut imaginer comment il se représentait cela, et c'est un changement qui est opéré par le législateur, comme l'écrit Plutarque. Le revers renvoie cette fois-ci au fleuve qui, transportant les produits, fournit en abondance les biens nécessaires. Cette abondance serait d'ailleurs signifiée aussi par les représentations d'animaux sur d'autres monnaies, ou plutôt sur des lingots de bronze anciens. Il n'existe pas, à ma connaissance, de représentation de moutons sur ces lingots. Dès le début, on a l'impression que le vrai sujet de la question, c'est l'abondance d'un côté et Saturne de l'autre. Certes, le Janus du forum peut expliquer le choix du thème, mais en lisant la question suivante, il convient de se demander si l'ensemble n'est pas une simple transition vers Cronos, vers Saturne, dont le temple barrait immanquablement la voie sur laquelle déambulent l'auteur et le lecteur, et notamment ceux-ci sont immédiatement confrontés à un bâtiment aujourd'hui disparu qui était lié à ce temple et à la prospérité et à la monnaie des Romains, le trésor de Saturne. Et c'est à cette question qu'est, à ce problème, à ce bâtiment, qu'est consacrée la 42e question. Donc Janus, dans tout cela, c'est une date, c'est des monnaies, c'est un point de départ pour arriver à Janus et sur le forum. Et peut-être voit-on au loin, à côté du temple de Saturne, sur le forum, la porte appelée le Janus. Lisons la question 42. Pourquoi se sert-il du temple de Cronos comme trésor des deniers publics, hein, et comme dépôt des contrats? Est-ce parce que l'opinion et la tradition ont retenu que sous le règne de Cronos, il n'y avait ni arrogance ni injustice parmi les hommes, mais bonne foi et justice? Le législateur qui change les choses en mieux, hein, comme il disait dans la question précédente. Ou bien parce que ce Dieu est l'inventeur des fruits de la terre et a construit vers l'agriculture. En effet, c'est cela que signifie la faucille que porte ce Dieu sur ses statues, et non pas, comme l'a écrit Antimachos sur la foi d'Hésiode, coupant obliquement avec la serpe les parties de son père Ouranos, le fils d'Acmon, Cronos le velu, s'est institué roi. Or, l'abondance de fruits et leur distribution constituent l'origine de la monnaie. C'est pourquoi ils ont fait de leur auteur également le gardien de la prospérité. La preuve en est donnée par le fait que les réunions appelées Nundinae, neuvaines, qui se déroulent tous les 8 jours au forum, sont considérées comme consacrées à Cronos, car l'excédent de fruits constitua le début de la vente et de l'achat. Ou bien est-ce que ce sont là des choses trop anciennes, et est-ce que le premier qui désigna le sanctuaire de Cronos comme trésor, après le renversement des rois, ne fut pas Valerius Poblicola, qui ne pensait que cet endroit était bien défendu, bien visible, et difficile à être attaqué par surprise? Comme les chapitres 11 et 12 de la vie de ce Poblicola de Plutarque le prouvent, le lien entre les questions 41 et 42 est clair. Comme dans la biographie, de Poblicola, il y est question d'abondance, de monnaies anciennes, de Saturne, de Cronos. Donc on voit qu'il y a vraiment un passage de l'un à l'autre. La question 43 porte sur le même sujet. Pour quelle raison les ambassadeurs à Rome, de quelque endroit qu'ils viennent, se rendent-ils au temple de Saturne et s'inscrivent-ils auprès des préfets du trésor? Les questions 44 et 45 concernent le flamine de Jupiter et le temple de Vénus. Pourquoi est-il interdit aux prêtres de Zeus, aux flamines de Jupiter, de prêter serment? 45. Pourquoi, lors de la fête des Vénéralia, verse-t-on une grande quantité de vin du temple d'Aphrodite? Il est évident que ces sujets sont appelés par le Capitole. Le prêtre de Zeus est évidemment le flamine de Jupiter, mais il existe, et qui est lié au Capitole. Il existe aussi un lien thématique avec les questions précédentes. On y apprend en effet que le règne de Saturne est celui de la bonne foi et de la justice. Bref, ce dont il est question dans la 44e question, la bonne foi, le serment que le prêtre de Jupiter, le prêtre du Dieu qui garantit la bonne foi et la loyauté, n'a pas besoin de prêter. D'autre part, le rite des Vénéralia, plus exactement en latin des Vinalia, la fête du vin en quelque sorte, du 23 avril, se déroule devant le temple de Vénus, appelé Vénus du mont Eryx, Vénus Eruquina, dédié en 217 avant Jésus-Christ sur le Capitole, et s'adresse en fait à Jupiter. Ce rite des Vinalia s'adresse à Jupiter, car le vœu du héros aîné ne fut pas fait aux dieux, comme l'écrit Plutarque, mais à Jupiter, dans les sources latines. Pour comprendre le lien topographique, il faut aussi savoir que le temple de Saturne, et surtout le trésor de Saturne, sont en fait situés in capitolio, au Capitole, dans les sources romaines. Un terme qui ne se réfère pas seulement au sommet de la colline, mais aussi à un district appelé Capitole, qui s'étendait jusqu'au pied de la colline. Les lecteurs qui se trouvaient près du temple de Saturne pouvaient donc parfaitement considérer qu'il était in capitolio, au Capitole. Bref, soit en considérant le lieu où il s'était arrêté, près du temple de Saturne, déjà à la limite entre le forum et le Capitole, Soit en levant les yeux vers le Capitole, le lecteur pouvait envisager les temples et les rites du Capitole. J'ajoute un mot en passant à propos de cette 44e question pour illustrer la méthode de Plutarque. La question « Pourquoi est-il interdit aux prêtres de Zeus de prêter serment ?» envisage trois aspects. Le serment, le prêtre bien entendu, ainsi que l'interdit, l'impossibilité de prêter serment. Plutarque énumère ensuite quatre impossibilités. D'abord, une impossibilité légale. La torture d'un prêtre est impossible. Est-ce parce que le serment est, pour ainsi dire, une sorte de mise à la question pour les hommes libres, et le corps et l'âme du prêtre ne doivent pas être soumis à la question? Deuxième impossibilité, une impossibilité logique. On ne peut pas se défier d'un prêtre. Ou bien est-ce parce qu'il n'est pas convenable de se défier sur des points minimes de celui à qui l'on a confié les affaires divines, qui sont de la plus grande importance? Troisièmement, une impossibilité rituelle. Le serment comporte une malédiction du parjure. Ou bien est-ce parce que tout serment se termine par une imprécation contre le parjure et que l'imprécation est de mauvais présage et sinistre? C'est pour ça qu'on considère traditionnellement que les prêtres ne doivent pas non plus faire des imprécations contre autrui. À Athènes, la prêtresse qui refusa de lancer sur ordre du peuple des imprécations contre Alcibiade fut approuvée, car elle dit qu'elle était prêtresse pour prier, non pour maudire. À noter une fois de plus le recours à une coutume grecque pour appuyer l'argument. Il s'agit de la prêtresse Théano que Plutarque évoque également dans Alcibiade, dans sa vie d'Alcibiade. Le parallélisme n'est pas complet puisqu'il n'y est pas question de serment, mais seulement de l'impossibilité pour une prêtresse de faire des malédictions. Dans le serment romain, n'est-ce pas, ou même ailleurs, quand on prêtait serment, on appelait la colère des dieux, c'est-à-dire on demandait à ce qu'on soit écrasé si jamais on ne respecte pas son serment. Enfin, une impossibilité politique. Ou bien est-ce que le risque du parjure est communautaire? Si un homme impie et parjure, cette fois-ci il l'a fait, n'est-ce pas, préside au nom de la cité aux prières et aux sacrifices. Dans trois cas, le prêtre ne peut pas prêter serment. Dans le dernier cas, Plutarque envisage l'hypothèse où il a prêté serment et où il a commis un parjure. À nouveau, vous le voyez, je le répète, le raisonnement est construit très soigneusement et de façon systématique. Revenons à notre promenade. Le lecteur est censé longer le pied du Capitole par le vicus, la ruelle du Joug, en ayant le regard fixé sur le temple et les trésors de Saturne. Le Capitole est peut-être cette porte de Janus à la question 41 que l'on devinait à droite de la Curie. Les questions suivantes confirment cette reconstruction. À première vue, on ne le dirait pas. 46. Pour quelles raisons les gens d'autrefois maintenaient-ils continuellement ouvert le temple de Horta? Est-ce que, comme Antistius Labeo l'a affirmé, parce que exhorter se dit Hortari? Ils ont de même estimé que la déesse qui encourageait et exhortait aux belles actions s'appelait Horta et qu'elle ne devait pas tarder à agir, ni être enfermée ou rester inactive. Ou bien plutôt, étant donné qu'on l'appelle aujourd'hui Hora, après l'allongement de la première syllabe, sa déesse, en quelque sorte vigilante et pleine d'attention, est-elle une protectrice empressée, qui n'est à leur avis jamais indifférente ni négligente à l'égard des affaires humaines? Ou bien ce terme, comme beaucoup d'autres, est-il également emprunté au vocabulaire grec, et signifie-t-il que la déesse contrôle et surveille? Pour cette raison, son temple était continuellement ouvert, comme si elle paraissait toujours veiller et être sur ses gardes. Si toutefois l'Abéon a raison d'affirmer que Hora dérive son nom de Panorman, exhorté, voici s'il ne faut pas conclure que l'orateur, est une sorte de conseiller ou meneur persuasif et stimulant, et si ce terme ne vient pas du grec ara, prière, ou de euke, prière, comme certains le disent. Pour s'apercevoir que le lien entre ces questions est patent, il suffit de lire le calendrier ancien d'Anzio, trouvé dans la ville d'Anzio, et celui des frères Arval à la date du 23 août. Vous y lisez Volcano, Horae Quirini, Maiae, Supracomitium Sacrificatur, c'est-à-dire en ce jour du 23 août, on sacrifie au-delà du comitium à Vulcain, Hora Quirini, Hora de Quirinus, et à Maia, qui est lié à Vulcain. Bref, nous sommes exactement à l'endroit qui permet d'apercevoir à quelques dizaines de mètres le lieu situé au-delà du comitium par le calendrier. Mais pour ce qui concerne la déesse Hora ou Horta, si le calendrio de Anzio peut faire penser par sa formule lapidaire qu'elle recevait son sacrifice au comitium comme Vulcain et Maia, les fastes des frères Arval, qui donnent une notice plus développée, apprennent que ce sacrifice se déroulait en fait au Quirinal, près du temple de Quirinus, c'est-à-dire quand même à 1 kilomètre de l'endroit où nous sommes. Le lien de cette question, 42 je crois, ou 46 pardon, avec les autres qui l'entourent, n'est donc pas topographique, il est uniquement calendaire. La première, nous reviendrons à ce problème. Pour l'instant, il faut débrouiller la question elle-même, qui est complexe. La première difficulté provient de ce que la déesse Horta n'existe tout simplement pas, ou en tout cas n'est pas connue par une autre source que celle-ci, que celle de Plutarque, contrairement à la deuxième divinité nommée dans la question Hora, qui est bien connue sous la forme Hora Quirini, la Hora de Quirinus, non seulement par les calendriers, les deux calendriers que j'ai cités, mais par le poète Ennius et par Gellius, qu'on appelle Olugel dans ce pays. Les savants ont tenté de résoudre le problème. Certains ont rapproché son nom de celui d'une ville étrusque du même nom, Horta, aujourd'hui, Horté en Étrurie méridionale. D'autres ont tenté de trouver dans son nom la racine de la déesse Osc Herentas, mais rien de tout cela n'est convaincant. En fait, la déesse est sans doute inventée à partir d'une interprétation de Hora Quirini, par Plutarque ou par une de ses sources. Et en tout cas, Plutarque a renversé ici le sens de la dérivation, puisque Hora est, d'après sa proposition, le nom actuel de l'ancienne Horta. Il historicise une simple interprétation, si vous voulez. Autrefois, elle était comme ça. Maintenant, elle s'appelle Hora. Une fois de plus, on constate les dangers de ce type de texte, car il n'est pas sûr que Plutarque ou sa source cite des documents anciens, ou juge seulement avec des étymologies, des interprétations. Voyons de plus près le texte. Donc le temple de Horta est toujours ouvert. Première interrogation, pour quelle raison les gens d'autrefois maintenaient-ils continuellement ouvert le temple de Horta? Est-ce que, comme l'Abéo l'affirme, parce qu'exhorter se dit Hortari? Ils ont estimé que cette déesse ne devait jamais tarder à agir ni à être enfermée ou rester inactive. Dans cette interprétation, prise au juriste Antistius Labeo, Hora Quirini, car il s'agit d'elle, est interprétée à partir de Hortari, exhorter, ce que Plutarque retrouve dans le verbe grec panhorman, exhorter, encourager. Nous comprendrons plus loin pourquoi Plutarque commence par une interprétation du nom de Hora au lieu de partir de la déesse Hora elle-même. Après ce début, Plutarque continue. Ou bien, plutôt, étant donné que l'on l'appelle aujourd'hui Hora et que cette déesse en quelque sorte vigilante et pleine d'attention est une protectrice empressée, n'était-elle à leur avis jamais indifférente ni négligente à l'égard des affaires humaines? Ou bien ce terme, comme beaucoup d'autres, est-il également emprunté au nom grec et signifie-t-il que la déesse contrôle et garde, etc. Ici, il revient au nom utilisé de la déesse, Hora, dont il écrit qu'elle serait vigilante aux affaires humaines. Il songe manifestement au verbe grec ephoran, inspecter, contrôler. Il se peut toutefois aussi qu'il fasse allusion à la fonction du dieu Quirinus, liée à elle, puisqu'elle est Hora de Quirinus, et qu'elle est plus proche des humains, comme le dieu Quirinus, qui est censé protéger le corps civique et garder la paix armée, ainsi que l'a démontré le juriste André Magdelin. En conclusion, Plutarque revient à la première idée, celle de l'Abéo. Donc s'il avait raison, l'Abéo, d'affirmer que Hora dérive son nom de Panorman exhorté, voici, il ne faut pas conclure que l'orateur est une sorte de conseiller ou meneur persuasif et stimulant, et si ce terme ne vient pas de ara, prière, ou euke, prière, comme certains le disent. Ici, Plutarque dévoile le cheminement de sa pensée. Si Hora vient de Hortari ou de Panhorman, une autre voie s'ouvre, la relation avec orator, avec orari, ou même le verbe grec ara, ou le terme grec ara, imprécation. Les grammairiens d'aujourd'hui trouvent cette relation fantaisiste, et du point de vue phonétique, ils ont évidemment raison. Mais ce sont là des critères qu'il ne faut pas appliquer aux anciens. Ceux-ci établissent à tout prix des liens entre des mots ou des choses pour analyser un aspect de la notion qui fait problème. Ici, il s'agit de mettre en évidence les liens de Hora avec l'orateur. C'est ici que doit se placer le dernier pas dans ce raisonnement que Plutarque met en premier, en fait, dans sa question. D'ailleurs, Hora s'appelait autrefois Horta. À mon avis, la recherche du lien avec Hortari et orator est en fait tirée de la divinité à laquelle Hora était jointe, je l'ai dit, à Quirinus. Et Plutarque a fait de Horta une protectrice de l'espace propre de Quirinus, du corps civique certes, mais surtout du comitium, de cette ère de rassemblement où les orateurs exhortent les Romains assemblés de prendre les bonnes décisions et veillent en quelque sorte au bien-être de la communauté. Mais revenons à la topographie. Le lecteur voit donc du point où il se trouve le comitium, ce forum primitif, l'espace de Quirinus et de Vulcain, et en raison de la contiguïté temporelle du sacrifice qui était fait à cette déesse, le jour du sacrifice de Vulcain, le 23 août, il fait une parenthèse à propos de Hora, dont la chapelle ou le temple est situé, d'après les fastes des Arvales, près du temple de Quirinus, sur le Quirinal, en allant vers Sainte-Marie-Majeure, qui aurait eu la particularité de demeurer toujours ouvert. Vérifions donc cette interprétation par la lecture des questions suivantes, hein, que tout ça nous ramène vers le comitium et que Hora est rattaché par le calendrier à cela. Le thème débattu s'orientait vers la parole et la vie publique. La question 47 ne quitte pas l'endroit que contemplent les locuteurs puisqu'elle concerne Vulcain, au sacrifice duquel, nous venons de le dire, Hora Quirini était associé le 23 août en même temps que Maya. 47e question. Pourquoi Romulus a-t-il construit le sanctuaire de Héphaïstos, Vulcain, à l'extérieur de la ville? Est-ce en raison de la jalousie à l'égard d'Arès que la mythologie prête à Héphaïstos au sujet d'Aphrodite, que Romulus, qui passait pour fils d'Arès, ne le fit pas habiter dans la même maison et dans la même cité? Ou bien est-ce là une sottise et le temple fut-il construit à l'origine comme lieu d'assemblée et de conseil secret pour lui et son collègue dans la royauté, Tassius, afin qu'en se réunissant à cet endroit avec les anciens, ils puissent délibérer tranquillement sans être dérangés?
C'était Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France avec John Shade. Réalisation Thomas Luther. Présentation Christine Goémé.
Ladies and gentlemen, this is the act where we put Nadine in the suitcase. We must prepare the body.
France Culture présente Rain, comme une pluie dans tes yeux, le nouveau spectacle du cirque Éloise, au théâtre du Trianon à Paris, du 28 mars au 21 mai.
The suitcase.
Non.
Emblématique du nouveau cirque contemporain, cette troupe québécoise propose un moment de théâtre acrobatique et poétique en abordant la thématique des émotions et des souvenirs liés à l'enfance. Oui, une création mise en scène par Daniel Finzi-Pasca pour le cirque Éloise, du 28 mars au 21 mai, avec France Culture. Un événement présenté dans le cadre de Francophonie, le festival francophone en France. France Culture vous offre des places. Vos invitations au 32-30, tapez étoile, puis 23, 34 centimes d'euros la minute. Je vais te raconter l'histoire de la philosophie. Pas toutes, bien sûr, mais quand même, ses cinq plus grands moments. Ainsi commence l'ouvrage de Luc Ferry, Apprendre à vivre, traité de philosophie à l'usage des jeunes générations. En six grands chapitres, l'auteur ouvre les portes de la philosophie à chacun. Avec lui, plus rien n'est obscur ni intimidant. De termes simples en exemple clair, le lecteur navigue en toute limpidité au sein de l'essentiel philosophique. Apprendre à vivre, traité de philosophie à l'usage des jeunes générations, de Luc Ferry, une coédition France Culture.
Le matin, c'est la plus belle image du monde. On devrait l'encadrer. Vous êtes sur France Culture.
Bonjour, votre matinée sur France Culture. 9h05, la nouvelle fabrique de l'histoire sur le thème « Les étudiants et le pouvoir » évoque le congrès de Marseille de l'UNEF en décembre 1968, un congrès historique pour le syndicat étudiant avec Jean-Philippe Legoix et Roby Morder. 10h, c'est le temps des humanités. Jusqu'à la Lune et Retour invite Eudes Labrusse, directeur du Festival des Arts Vivants, Les Franco, le Festival des Francophonies Théâtrales pour la Jeunesse à Mantes-la-Jolie. Autre invité, Christian Duchange, metteur en scène de L'Ogrelet de Suzanne Lebeau, pour tout public à partir de 6 ans au Théâtre de l'Est parisien. Émission suivie à 10h30 par Histoire d'écoute, Radio Citrouille de Michel Sigal. 11h, fiction en feuilleton, grande et petite histoire de la comédie française, Le siècle des Lumières par Maurice Levers, 38e épisode. Enfin à 11h30, les chemins de la connaissance, du révisionnisme au négationnisme, reviennent sur l'histoire de cette théorie, ce sur quoi elle s'appuie, comment elle se structure et le sens qu'il faut y voir. Invité ce matin, Enzo Traverso, maître de conférences en sciences politiques à l'université de Picardie à Amiens et chargé de conférences à l'école des hautes études en sciences sociales. Mais tout de suite, les matins de France Culture se lèvent avec Nicolas Demorand.
Bonjour à tous et bienvenue sur France Culture. Il est 6h58, actualité très chargée en ce mercredi 29 mars 2006. Et voici donc le programme de l'émission aujourd'hui. À 7h20, les enjeux internationaux sur les législatives en Israël. Elles avaient lieu hier, courte victoire de Kadima. Et cette question posée tout à l'heure dans les enjeux internationaux, quelle recomposition de l'échiquier politique dans quel contexte israélo-palestinien? Puis à 7h40, autre forte actualité de la journée. Notre invité sera aujourd'hui l'économiste Daniel Cohen. On va revenir bien entendu sur la mobilisation d'hier contre le CPE. Il y avait dans les rues de France, selon les estimations, entre 1 et 3 millions de personnes et des mouvements de grève qui ont perturbé les transports, les écoles, l'audiovisuel public, comme l'antenne de France Culture hier. Alors, plus le climat se tend, plus il est difficile de réfléchir sereinement à la question de l'emploi des jeunes. Elle est pourtant d'actualité depuis des années en France et le CPE avait pour ambition justement d'apporter la quelques réponses nouvelles à ce problème beaucoup trop ancien. On demandera tout à l'heure à Daniel Cohen si de son point de vue, et quoi qu'on en lise, quoi qu'on en dise, si donc de son point de vue, sous une forme ou une autre, la flexibilité est oui ou non la clé de l'entrée des jeunes sur le marché du travail et plus largement si des dispositifs de ce type peuvent régler aujourd'hui la situation globale de cette classe d'âge sur laquelle se répercutent bien des dysfonctionnements français. Voilà donc le programme de notre entretien tout à l'heure avec l'économiste Daniel Cohen. Il est 7h.
Thank you.
Première édition du journal, Jean-Louis Crimon.
Bonjour, à nouveau le blocage et l'impasse. Les anti-CPE ont pourtant mobilisé en masse 2 à 3 millions de manifestants hier dans toute la France. Le Premier ministre se veut plus que jamais inflexible, non au retrait. Alors que Nicolas Sarkozy affirme lui son oui au compromis, les syndicats en appellent au président de la République. Dans une lettre commune adressée à Jacques Chirac, les 5 confédérations syndicales demandent en effet au chef de l'État un nouvel examen par le Parlement de la loi dite égalité des chances, excluant cette fois l'article relatif au contrat première embauche. La majeure partie de cette édition sera bien sûr consacrée au CPE et à la crise actuelle, crise sociale en passe de devenir crise politique, l'UMP ne cachant plus ses divisions sur la stratégie pour sortir de la crise. Dans l'actualité de ce mercredi 29 mars, nous irons en Israël pour le résultat et les premières analyses, les premières réactions aux élections législatives remportées par Ehud Olmert et Kadima, et nous nous rendrons également à Washington où Marc Crépin nous dira l'embarras des avocats de Zacharias Moussaoui après les révélations de ce dernier sur sa mission du 11 septembre 2001, détourner un 5e avion et le précipiter sur la Maison Blanche. Tout le monde s'accordait à le penser et surtout à le dire hier, la journée devait être cruciale, mieux décisive. Et ce matin, Tintin, rien n'a changé, rien n'a bougé, on se retrouve pratiquement au point de départ. Avec un Premier ministre qui a épuisé en quelques semaines tout le champ lexical et toutes les postures du refus, obstination, entêtement, aveuglement, conduite suicidaire, avec pratiquement 3 millions de personnes qui disent non dans la rue, faute de pouvoir ailleurs être entendues, avec enfin un divorce désormais évident entre le numéro 1 et le numéro 2 du gouvernement, quand Dominique de Villepin s'accroche pour masquer une méthode catastrophique aux yeux même de sa propre majorité, en affirmant, c'était hier à l'Assemblée, la République ce n'est pas des préalables, ce n'est pas des ultimatums, Nicolas Sarkozy, lui, répond pas de textes gouvernementaux sur les questions sociales sans concertation préalable. Moralité, ce matin, la situation est plus que jamais en impasse, et après les manifestations d'hier, qui ont atteint des records partout en France, dépassant les manifestations de 2003 contre la réforme des retraites, de sociale, la crise risque de devenir ouvertement politique. À gauche, mais aussi à droite, on aimerait que le chef du gouvernement mesure parfaitement jusqu'où ne pas aller trop loin dans sa détermination. Retour à la manifestation d'hier à Paris. Plus de 500 000 personnes ont défilé dans un cortège dense et tendu où étaient présents tous les leaders syndicaux et tous les chefs de l'opposition. Reportage au cœur du cortège, Sébastien Baer.
La pluie qui s'abattait sur Paris n'a pas refroidi l'ardeur des manifestants. Lycéens, étudiants, salariés, parents, retraités, toutes générations confondues, des dizaines de milliers de personnes ont clamé, chacune à leur façon, leur hostilité au contrat première embauche. Slogans scandés sur fond de musique rap, rock ou techno, banderoles ou pancartes. Bien souvent d'ailleurs, les revendications allaient bien au-delà du CPE.
C'est une saturation de coups de poing que tout le monde prend, et les plus précaires en particulier. Les salaires qui bougent pas, les gens coincés, la précarité généralisée. Les retraites, tout, depuis un petit moment là, ça commence à bien faire, je crois.
Le cortège parisien a rassemblé 700 000 personnes selon la CGT, 92 000 selon la police. Mais peu importe cette traditionnelle querelle de chiffres, le défilé était bien plus dense que celui de la précédente manifestation anti-CPE le 18 mars dernier. Aline Bérardi est enseignante en économie au lycée Voltaire.
C'est énorme. Moi, j'ai vu les mobilisations autour de la retraite, que ce soit 95 ou de la loi Fillon. J'ai pas vu une mobilisation comme ça, aussi importante intersyndicale. On n'en est pas encore à 9 millions comme en 68, mais si De Villepin se braque, à mon avis, on y va droit.
À l'arrivée du cortège, place de la République, de violents incidents sont venus ternir la manifestation qui se déroulait jusque-là dans une ambiance plutôt bon enfant. Plusieurs centaines de jeunes ont lancé des bouteilles, des pierres, des pétards, des pavés sur les forces de l'ordre qui ont répliqué par des tirs de gaz lacrymogène. Michel, une employée de banque venue manifester contre le CPE avec son fils, rêvait d'une autre fin à la manifestation.
Là, pourquoi les fins de parcours, on le sait bien, regardez jusqu'à devant vous, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? C'est pas moi qui charge, hein, regardez donc. Moi, je préférerais que ça se termine différemment parce que le CPE, bah, c'est important aussi pour se retirer pour nos gosses. Moi, j'ai un môme de 15 ans, j'ai pas envie qu'il traîne à la maison jusqu'à 30 ans sans rien pouvoir faire.
Le calme est finalement revenu vers 23 heures, bien après le départ des derniers manifestants qui préféraient retenir le succès de la mobilisation plutôt que les incidents de la fin de parcours.